Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition Géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Cette semaine a été marquée par la tournée européenne de Joe Biden, rythmée par la réunion du G7 en Cornouailles, le sommet de l'OTAN à Bruxelles, le sommet États-Unis-Europe, puis la rencontre avec Vladimir Poutine. Cette visite se voulait un signal du retour des États-Unis sur la scène internationale, un retour très espéré par les Européens qui ont obtenu une amélioration de leurs relations avec Washington. Sur le plan commercial, avec pour commencer cette trêve de 5 ans dans le conflit vieux de plus de 17 années entre les deux géants de l'aéronautique que sont Boeing et Airbus. Mais de nombreux dossiers sont encore en suspens, sujet de tension entre les deux rives de l'Atlantique. Regard sur cette visite marathon ponctuée d'un enchaînement de sommets et sur ce qu'elle révèle du début de la présidence Biden et le ton qui veut être donné. Les Européens ont-ils les moyens de rétablir des relations équilibrées avec les États-Unis? Pour y répondre, nos invités, Alexandra de Hubschefer, politologue, spécialiste des États-Unis et des relations transatlantiques, directrice à Paris du think tank German Marshall Fund of the United States. Bonjour.
Bonjour.
Et Martin Cancé, chercheur et directeur adjoint du German Marshall Fund à Paris. Bonjour.
Bonjour.
Quel regard portez-vous l'un et l'autre sur cette visite, les éléments les plus marquants, les points forts, les avancées, Alexandra de Hubschefer?
Je pense que quand Biden dit l'Amérique est de retour, là je pense qu'on l'a vraiment compris. Donc l'Amérique est effectivement de retour. Ce que ça montre, c'est deux choses. C'est d'abord que malgré les quatre années de Trump, les États-Unis ont su conserver ce que j'appellerais leur capacité d'entraînement auprès de leurs partenaires européens, mais aussi asiatiques. Ils ont cette capacité à être le chef d'orchestre quand ils le veulent et quand ils le peuvent, de l'action internationale pour répondre aux défis d'aujourd'hui et de demain, même si les Européens, et c'est vrai que la France le rappelle à plusieurs reprises, a souvent été à l'initiative de décisions sur lesquelles Biden finalement transforme l'essai. Donc ça aussi, c'est intéressant à analyser, que les États-Unis n'ont pas d'équivalent aujourd'hui dans l'ordre international, ni auprès de partenaires européens, ni auprès de l'UE, à pouvoir rallier ces coalitions pour répondre aux challenges d'aujourd'hui et de demain. Donc ça, c'est la première, je dirais, leçon qu'on peut en tirer. Et l'autre aussi, c'est que malgré les quatre années de Trump, cette séquence diplomatique de Biden en Europe montre aussi une forme de résilience de la relation transatlantique. C'est-à-dire qu'on voit que les liens entre les États-Unis et l'Europe sont tellement institutionnalisés, tellement routinisés en quelque sorte, eh bien, qu'il n'a pas été si difficile que ça pour les Européens de renouer avec leurs partenaires américains. Et dernière chose enfin, il y a une double opportunité pour l'Europe. D'abord, parce que c'est peut-être la dernière fois qu'ils ont en face d'eux un président américain aussi pro-européen, et d'ailleurs beaucoup plus européen que le président Obama. Et c'est une opportunité pour les États-Unis, ils l'ont très, très bien compris, puisqu'ils voient dans ce réveil européen, notamment face à la Chine, une occasion aussi pour les pousser davantage à s'arrimer sur la politique américaine face à la Chine.
Alors précisément, Mathieu Cancé, cette capacité qu'a Joe Biden à renouer avec l'Europe, est-ce que ça n'est pas précisément parce que d'abord c'est un homme qui connaît très bien l'Europe et qui a déjà fonctionné, en Europe on connaît Joe Biden pour avoir été le vice-président de Barack Obama. Est-ce que cet élément vous paraît un élément important dans cette réanimation de la relation transatlantique?
Oui, et d'ailleurs Joe Biden en a beaucoup joué, c'est sûr qu'il est une personne connue, il s'est entouré de gens qui sont connus en Europe, la grande majorité de l'équipe vient directement des années Obama, des gens qui ont travaillé sur le dossier européen, le secrétaire d'État Tony Blinken a un réseau formidable aussi en France, tout ça Joe Biden l'a bien utilisé ces derniers jours, et c'est en effet une des grandes forces de la manière dont il approche la relation transatlantique avec cet objectif de réparer les dégâts qui ont été faits lors des quatre dernières années, et en ça, du point de vue de l'administration américaine, clairement cette séquence diplomatique est un succès. Il a pu montrer qu'il peut envoyer les messages rassurants aux partenaires européens, il a pu éviter toute forme de tension, toute forme de couac durant ces derniers jours. Je pense que c'était véritablement l'objectif. de montrer qu'on n'était plus dans l'ère Trump, que les scandales à répétition, les choses qui montraient les désaccords entre Européens et Américains ne se faisaient plus en grand public et au contraire, on montrait un visage très uni. Joe Biden a répété durant ces derniers jours qu'il voulait montrer de la solidarité et de la cohésion. La deuxième chose, c'est de commencer à créer un nouvel agenda pour la relation transatlantique. Et ça, encore une fois, les attentes n'étaient pas nécessairement très élevées. On savait qu'il n'y allait pas nécessairement avoir des annonces rocambolesques sur les grands sujets du 21e siècle, mais de mettre en place toute une série de groupes de travail, de task force, de dialogues, finalement assez compartimentés entre le sujet climatique, le sujet commercial, les enjeux technologiques. Tout ça, ça peut créer un élan, ça peut mettre en place des cadres de coopération. Alors évidemment, les résultats sont attendus. Aujourd'hui, ce ne sont que des cadres un petit peu vides. On va devoir faire le suivi de ces différentes initiatives. Mais c'est très positif pour dire la relation transatlantique se réforme. Nous sommes capables de parler de nouveaux sujets. Et en cela, encore une fois, pour moi, c'est un succès.
Alors, pardon de vous avoir appelé Mathieu, c'est Martin Cancé. Ouais. Alors, Alexandra Dobscheffer, les États-Unis de Biden sont plus élégants, c'est un euphémisme, que ceux de Donald Trump. Mais sur le fond, est-ce que ça n'est pas toujours America First?
Alors, il y a beaucoup d'America First. D'ailleurs, on l'a vu, le premier sujet où c'était vraiment America First jusqu'à très récemment, c'était la question du Covid-19, quand même. La stratégie vaccinale, et là, on a, depuis quelques semaines, finalement, un président Biden qui, tout d'un coup, devient justement le chef d'orchestre de cette stratégie vaccinale sur la scène internationale. Tandis que l'Europe et l'Union européenne le fait déjà depuis plus d'une année. Donc ça, oui. Alors après, c'est différent. Bien sûr, les États-Unis vont toujours défendre leurs intérêts d'abord, tout comme la France va défendre ses intérêts d'abord, et on l'a très bien vu aussi pendant cette semaine de sommet. Mais là où Biden est assez subtil, beaucoup plus que Trump, c'est qu'il arrive à enrober les objectifs, les priorités américaines dans un cadre plus large, et notamment ce narratif démocratie contre autocratie, ce qui finalement laisse peu de choix aux Européens, puisque choisir entre démocratie et autocratie, le choix est assez rapidement fait. Et le fait de répéter sans cesse ce discours-là fait que l'Europe, et on l'a vu notamment sur la Chine, eh bien s'aligne petit à petit sur la position américaine. On l'a vu en particulier dans le cadre de l'OTAN et cette déclaration donc de l'OTAN qui désigne pour la première fois la Chine comme un défi systémique. Donc c'est-à-dire qu'elle est désignée pour la première fois par l'Alliance Atlantique comme une possible menace. Et on sait à quel point cette formule-là a suscité beaucoup de débat entre les États-Unis d'un côté et les partenaires européens, et en particulier la France et l'Allemagne, qui étaient réticentes et qui le sont d'ailleurs toujours, à vraiment désigner la Chine comme une menace pour l'Alliance Atlantique. Donc voilà, donc il avance petit à petit son agenda, en un la Chine, mais l'autre sujet qui a été omniprésent et qui remplit une très grande partie de toutes les déclarations G7, la déclaration bilatérale aussi avec Boris Johnson, autant UE-US, c'est la question technologique. Parce que la compétition avec la Chine, d'un point de vue washingtonien, c'est avant tout une compétition technologique. Et dans le logiciel américain, la puissance qui détiendra le leadership, la suprématie technologique, sera de facto la plus grande puissance du monde, avec notamment la possibilité et donc les risques de pouvoir utiliser ces technologies de pointe dans le domaine militaire, et donc de devenir une plus grande puissance militaire et donc une plus grande menace pour les États-Unis et la sécurité de leurs alliés. Donc pour moi, ces deux pans, Chine d'un côté et la question du leadership technologique, ne font qu'un sujet et ont véritablement façonné toutes les discussions que Biden a impulsées au sein de ces différents sommets.
Alors, on a vu, Martin Cancé, l'Union européenne pas forcément très unie dans sa vision de l'Amérique aujourd'hui. Finalement, c'est peut-être un paradoxe aussi, ce sont peut-être pas les pays européens les plus démocratiques qui adhèrent le plus facilement à la vision américaine du monde.
Oui, même si, comme l'a dit Alexandra, le récit américain est celui d'une opposition entre démocratie et autocratie. Et donc, il va falloir réconcilier ce paradoxe. C'est-à-dire que si vos partenaires prioritaires en Europe sont des régimes qui eux-mêmes ont des problèmes avec l'état de droit, avec le libéralisme politique, l'administration Biden va devoir jouer sur ce plan-là. Je pense néanmoins que, et c'est très juste de le noter, les différences au sein de l'Europe sont parfois plus importantes que les différences au niveau transatlantique. Et notamment notamment sur la Chine. Finalement, la question qui se pose ensuite pour l'administration Biden, c'est quelle est sa véritable marge de manœuvre pour créer une unité européenne. Là, on a quelque chose qui a été créé pour un dialogue transatlantique sur la Chine. Mais si les Européens restent désunis sur cette question, si les fractures continuent, vous aurez une situation où un dialogue est impossible. Et c'est d'une certaine manière aussi un héritage des années Obama. Beaucoup des officiels de l'époque Obama regrettent cette époque parce qu'ils pensaient avoir tendu la main vers les Européens et que les Européens ne l'avaient pas saisi parce qu'ils n'étaient pas unis sur les grands enjeux de l'époque. Il y a cette crainte que le même problème se pose à nouveau sous Biden, une opportunité incroyable pour une coopération transatlantique qui tombe à l'eau parce que les Européens ne sont pas nécessairement d'accord sur la manière d'aborder le sujet chinois. Et le dernier point, c'est que aujourd'hui, ce qu'a fait de manière assez intelligente Joe Biden, c'est de dire « à vous de jouer ». La séquence diplomatique américaine se finit. Maintenant, la balle est dans le camp des Européens pour répondre, pour créer finalement de la substance, pour poursuivre cet élan. Les différentes task forces, les différents groupes de travail qui ont été mis en place suite au sommet US-UE sont véritablement aujourd'hui à remplir. Et c'est le travail des Européens de le faire.
Avec un temps, Alexandra Dobscheffer, qui est limité, c'est-à-dire que les Européens ont quand même en tête l'agenda de politique intérieure américaine, avec pour Joe Biden une marge de manœuvre finalement très très courte, les élections de mi-mandat, un congrès qui ne lui est pas complètement acquis. Tout ça fait hésiter les Européens à se jeter à nouveau dans les bras ouverts par l'Amérique.
Effectivement, il y a une forme de prudence et d'attentisme. Et d'ailleurs, on le voit dans le résultat de nos rapports, notamment avec les opinions françaises et allemandes, où il n'y a pas véritablement d'effet Biden, comme il y a pu avoir un effet Obama, on s'en souvient tous, en 2008, où tout le monde pensait que l'Amérique avait élu un président européen qui parlait comme un président européen, et finalement, Obama n'était pas européen. Là, on a un président qui a une vision, un ancrage dans la zone euro-atlantique et qui comprend l'importance de travailler avec les Européens. Et sur la division, qui est très importante, la différence attitude des Européens face à cette administration Biden et notamment par rapport à la Chine. Ce qui est intéressant de voir, c'est effectivement des pays comme la Pologne, la République tchèque, les États baltes qui s'alignent sur la position américaine sur la Chine avec une volonté de muscler un peu tout ça sur la question des droits de l'homme, sur la question aussi des nouvelles routes de la soie. Mais pourquoi ? Parce que ça fait partie aussi d'une stratégie de négociation ou de marchandage, c'est-à-dire on s'aligne, on va vous accompagner, Américains, sur cette politique de containment, de confrontation avec la Chine, mais en échange, on veut que vous assuriez la défense collective au sein de l'OTAN et notamment que vous soyez là pour nous face à la menace russe. Donc vous avez une forme aussi de marchandage, vous avez exactement la même façon de marchander dans la relation bilatérale aujourd'hui américano-allemande avec Nord Stream 2, Washington qui dit on va lever les sanctions américaines contre le projet Nord Stream 2 pour effectivement faire en sorte que la relation commence positivement avec l'Allemagne, mais en échange, on va demander aussi à Berlin de changer un petit peu son attitude face à la Chine et de nous accompagner sur une approche un peu plus musclée. Donc il y a un peu au sein aujourd'hui du partenariat transatlantique une forme de renégociation un peu du fond de ce partenariat sur fond de la compétition avec la Chine. Ça, c'est assez intéressant à voir.
Alors on entend plusieurs qualificatifs et finalement lequel choisir ? Il y a une étude de l'European Council on Foreign Relations, qui parle du réengagement américain. Il y avait un cinquième des Européens qui voient les États-Unis comme un allié, le reste comme un partenaire stratégique. Martin Cancier, si on devait définir la relation transatlantique aujourd'hui et cette relation entre États-Unis et Union Européenne, c'est allié, c'est partenaire stratégique, finalement, de quoi est-il vraiment question ?
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, les Européens ne sont pas forcément unis sur cette perception de la relation transatlantique. De manière générale, il est vrai que les États-Unis restent un allié, surtout au sein de l'OTAN et sur les questions de sécurité et de défense, mais il y a également un certain nombre de points qui restent en tension et une compétition aussi entre Européens et Américains. Si vous êtes, comme le disait Alexandra, disons à l'est de l'Allemagne, les enjeux de sécurité sont tels que vous êtes prêt à accepter tout un certain nombre d'initiatives de la part des États-Unis pour garantir la présence américaine et pour garantir les garanties de sécurité. À l'ouest de l'Europe et parfois aussi au sud, les points de tension sont plus visibles, aussi les perceptions sont différentes. Notre l'expérience de la crise du Covid a aussi beaucoup défini la manière dont on conçoit aujourd'hui l'équilibre des puissances. Et c'est un des points dans notre rapport. Les pays qui ont peut-être été le plus touchés par le Covid, dont le traumatisme est le plus fort, sont aussi les pays qui voient la Chine davantage comme une puissance véritablement mondiale, bien supérieure à l'Europe et en véritablement presque à l'égalité avec les États-Unis. Donc ce sont des pays qui sont dans un marchandage un petit peu différent. Je pense que ce qui est intéressant dans les sondages que vous citiez, c'est que en effet, il y a une confiance qui est renouvelée vis-à-vis de Joe Biden, quelque chose qui est très clair par rapport aux années Trump. Mais ça, c'est pour la personne de Joe Biden. Sur les États-Unis, néanmoins, la puissance américaine, l'influence américaine a perdu durant la période du Covid et ne s'est pas relevée. Et donc, les calculs que font les Européens sur ce point jouent sur cette perte d'influence américaine dans le monde. Je pense qu'aujourd'hui, la question qui se pose pour les Français notamment, c'est comment tirer son épingle du jeu avec des Allemands qui semblent finalement bénéficier de l'arrivée de Joe Biden pour le moment, la levée des sanctions sur Nord Stream, l'annonce que Angela Merkel sera la première dirigeante européenne invitée à la Maison-Blanche. On a un certain nombre de signes qui montrent que, comme on pouvait l'attendre, l'administration Biden souhaite vraiment montrer patte blanche et créer un lien très particulier avec la chancellerie. Pour les Français, comme pour les Britanniques d'ailleurs, il faut trouver une autre manière de créer cette relation privilégiée, disons, alors même que l'Allemagne gagne sur ce plan-là.
Alors, l'étude mentionnée, dont je n'avais pas encore parlé en introduction, je le fais maintenant, c'est une étude qui s'intitule les Transatlantic Trends 2021, qui est une étude comparative des opinions publiques de 11 pays des deux côtés de l'Atlantique et qui apporte une grille d'analyse sur les grands enjeux que sont l'état de la relation transatlantique, la coopération transatlantique en matière de sécurité et de défense, les relations avec la Chine, les politiques commerciales et technologiques, ainsi que les grands enjeux transnationaux comme le changement climatique. On en parlera peut-être davantage dans la deuxième partie de l'émission. Alexandra de Pfeiffer, ce que j'évoquais en introduction, on a parlé des sanctions, la levée de sanctions avec la Russie, on parlera de la rencontre de Joe Biden avec Vladimir Poutine, mais la question commerciale avec la trêve sur la base bataille entre Boeing et Airbus. On sent bien qu'il y a d'un côté, alors Joe Biden qui est venu quand même séduire les Européens, on est bien d'accord, et ça fait partie des éléments de séduction pour ensuite, sur un plan politique, peut-être avoir plus de latitude pour tirer la ficelle, Alexandra Pfeiffer.
Oui. L'administration Biden aborde en fait tous les sujets, que ce soit de politique intérieure, politique extérieure, politique commerciale, sécuritaire, de manière très holistique. Et donc, c'est-à-dire qu'effectivement, il va utiliser certains sujets pour faire pression sur d'autres. Là, c'est vrai qu'on a assez bien avancé sur les points de friction, notamment sur les questions commerciales, en essayant en fait finalement de bâtir un agenda positif, à un moment où il n'y avait plus grand-chose de positif dans la relation transatlantique. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Biden a accepté un certain nombre de propositions venant de l'Union européenne en termes de format de coopération pour aborder justement tous ces sujets où l'Union européenne et les États-Unis ont des points de divergence, voire des désaccords. Donc typiquement, la Commission européenne, en décembre dernier, dans un papier qui définissait un peu sa vision d'un futur agenda transatlantique, avait proposé à l'administration Biden de mettre en place un conseil UE-US pour parler des questions commerciales et technologiques. Donc ça a été validé, mis en place. Sur d'autres sujets, la Russie, on sait à quel point aussi les pays membres de l'Union européenne sont divisés par rapport à la Russie, ça dépend de la géographie, etc. Et là aussi, l'administration Biden a accepté au sommet US-UE une proposition européenne de mettre en place un conseil US-UE pour parler de la Russie. Et ça aussi, c'est une nouveauté et ça colle véritablement avec ce que l'Union européenne essaye de montrer, c'est qu'elle est un acteur à part entière. Elle est reconnue telle qu'elle par l'administration Biden sur des sujets à la fois économiques, commerciaux, mais aussi stratégiques. Et le message qu'on reçoit depuis l'élection de Biden de la part de son équipe, c'est nous, ce qu'on veut, donc d'un point de vue américain, c'est que ce dialogue entre les États-Unis et l'Union européenne soit beaucoup plus stratégique. Que certes, on parle de climat, on parle de commerce, on parle de ces questions économiques, mais on veut aussi parler de gros dossiers de politique étrangère, y compris les sujets de défense et de sécurité.
On poursuivra, Alexandra de Pfeiffer, sur les sujets de défense et de sécurité dans la deuxième partie de l'émission. On vous retrouve, Alexandra de Pfeiffer, ainsi que Martin Cancé, après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur la visite de Joe Biden cette semaine en Europe. Nous retrouvons nos invités, Alexandra de Hoopscheffer, politologue, spécialiste des États-Unis et des relations transatlantiques, directrice à Paris du think tank German Marshall Fund of the United States, et Martin Cancé, chercheur et directeur adjoint du German Marshall Fund à Paris. Alexandra de Hoopscheffer, je vous ai interrompu à la fin de la première partie de l'émission en raison du journal. Vous évoquiez la reconnaissance de l'Union européenne sur des sujets finalement assez élargi, reconnaissance par les États-Unis, des sujets élargis, techniques, stratégiques.
Oui, absolument. Alors, justement, il y a tout un débat, et notamment, on le sent ici, hein, vraiment à Paris, sur est-ce que maintenant, avec une administration Biden qui tend véritablement la main vers les Européens sur un certain nombre de sujets, est-ce que tous les efforts et tous les progrès qui avaient été faits pendant les 4 ans de Trump vers plus d'autonomie stratégique, plus d'autonomie diplomatique, plus de souveraineté européenne sur des sujets clés, est-ce que ça va s'effriter maintenant que, en gros, le chef américain est de retour? Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit une administration Biden qui se montre plus ouverte envers cette idée d'une Europe qui s'affirmerait notamment dans le domaine de la défense et de la sécurité, ce qui n'était pas du tout acquis ni vraiment accepté par les administrations précédentes. Mais, parce qu'il y a un mais, à condition que les États-Unis puissent participer au projet de défense européen. Et c'est là où c'est intéressant, parce que Trump avait fait pression à l'époque sur Bruxelles pour que les États-Unis puissent participer, par exemple, au projet de la coopération structurée permanente, la PESCO, ce qu'a obtenu Biden sur la mobilité militaire. Donc comment faire en sorte que les troupes européennes et de l'OTAN puissent se déplacer sur le territoire européen sans être confrontées à trop d'obstacles. Et pareil sur l'agence européenne de défense, il y a une demande américaine de la part de Biden qui s'est faite pour travailler à, entre guillemets, un arrangement administratif pour les États-Unis avec l'agence européenne de défense qui a été acceptée par les Européens. Donc on voit, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils acceptent une Europe de la défense plus forte en tant que partenaire des Américains, mais à condition qui puissent en bénéficier, que leurs industries de défense puissent en bénéficier. Et donc ça, c'est pas du tout anodin par rapport aux implications pour nous, Européens, et notre industrie de la défense.
Alors, concrètement, si on devait un peu résumer tout cela, Martin Cancé demande d'engagement plus fort des États-Unis d'un côté, c'est-à-dire que bah, finalement, l'autonomie stratégique européenne en prend un coup.
Alors, je dirais que c'est pas fini. On a les États-Unis qui continuent à parler d'un partage du fardeau, partager donc les tâches et de demander que les Européens prennent davantage de responsabilités. Et on a des Européens, notamment la France, qui demandent un partage du leadership. Et en cela, on a donc pas véritablement résolu ce clash dans la manière dont on imagine le futur de la relation transatlantique. Lors du G7, je crois, le président Macron a dit publiquement devant le président Biden, leadership, c'est le partnership. C'est-à-dire, si vous voulez reprendre les rênes de cette relation transatlantique, si vous voulez à nouveau assumer ce leadership, il faut que vous le fassiez de manière coordonnée avec les Européens et que vous partagiez également la prise de décision. Aujourd'hui, l'administration Biden a clairement montré qu'elle était intéressée de donner davantage de responsabilités aux Européens, de prendre aussi l'Union européenne plus au sérieux, mais sur le leadership, sur la prise de décision, sur la définition des priorités stratégiques, on va attendre pour voir si véritablement les États-Unis sont prêts à prendre en considération d'autres points de vue. Ce qu'on a noté à la fin du sommet de l'OTAN, c'est donc l'ouverture de tout un travail qui va durer un an pour l'écriture d'un nouveau concept stratégique. Donc un document qui va guider l'Alliance dans les années à venir, qui va définir l'environnement stratégique dans lequel on opère, les menaces et la manière d'y répondre. Ce document-là va finalement être le résultat d'un dialogue entre Européens et Américains, mais on verra seulement l'année prochaine, lors du prochain sommet de l'OTAN, si, disons, les perspectives européennes, peut-être notamment françaises, ont bien été prises en compte. monde. Ce qui sera intéressant de noter, c'est que aujourd'hui, donc la Chine est dans le communiqué de l'OTAN un défi systémique. Est-ce que ça sera toujours le même terme qui sera utilisé l'année prochaine dans ce document du concept stratégique, ou est-ce qu'on aura monté d'un cran? Est-ce qu'on parlera désormais de menace? Tout cela, ça va se passer dans l'année à venir, et c'est véritablement le résultat de ce processus qui va répondre à votre question. Est-ce que l'autonomie stratégique européenne existe encore?
Quelques mots sur la rencontre entre Vladimir Poutine et Joe Biden, Alexandra Dobschaffer. Après ça, je souhaiterais que vous commentiez un certain nombre d'éléments de l'étude que je mentionnais dans la première partie de l'émission sur la Russie, qui est l'inquiétude numéro un pour les Européens. Est-ce que cette rencontre entre Joe Biden et Vladimir Poutine peut apaiser ces inquiétudes européennes?
Alors, Poutine et Biden se connaissent très bien. Et on sait que Biden, quand il était justement le vice-président de Barack Obama, c'est lui qui avait été le principal artisan de ce fameux reset, cette tentative malheureuse de relancer la relation entre les États-Unis et la Russie. Et c'est Biden aussi, sous Obama, qui était en charge du dossier ukrainien. Donc, il connaît parfaitement ces dossiers-là et il tire les leçons des deux mandats de Barack Obama. Barack Obama, on le sait, avait insulté Poutine à l'époque en lui disant vous êtes à la tête d'une puissance régionale. Il n'y a rien de pire que vous pouvez dire au président russe, c'est de dire que la Russie est une puissance régionale. Là, effectivement, en conviant le président russe à ce sommet, c'était de lui reconnaître un statut de puissance mondiale. Donc, de facto, ça a créé un terrain de dialogue un peu plus positif. Et d'ailleurs, on l'a vu. Après, il y a eu quelques décisions symboliques qui en sont sorties. Mais là aussi, on est un peu dans une espèce de stratégie d'équilibriste, si je puis dire, entre, d'une part, on le voit, la volonté de Biden de se distinguer de Trump avec une ligne dure sur Moscou, sur beaucoup de sujets. En numéro un, la cybersécurité, les interférences dans l'élection américaine, la question des droits de l'homme, mais aussi le rôle que joue la Russie de plus en plus sur des terrains plus géopolitiques, et en même temps de garder des canaux diplomatiques ouverts. Et là, typiquement, sur un sujet clé qui concerne aussi la sécurité européenne, qui est la maîtrise des armements.
Un commentaire supplémentaire, Martin Cancet, sur cette rencontre et les avancées, peut-être, on ne sait pas grand-chose.
Oui, c'est véritablement symbolique. Je pense qu'il était important de présenter les lignes rouges pour les États-Unis, de présenter la vision qu'avait l'administration Biden de cette relation avec la Russie. Alors, les termes qui ont été employés plusieurs fois, c'est une relation plus stable et plus prévisible. C'est aussi ce que Joe Biden souhaite, parce que il souhaite pouvoir s'investir véritablement dans la relation avec la Chine, et il ne veut pas que la Russie pose ce problème un petit peu à la marge de ses priorité et l'empêche de s'engager sur le dossier chinois. Je pense qu'un dernier point, c'est que finalement, même si une nouvelle crise apparaît avec la Russie, Joe Biden pourra dire aux partenaires européens « j'ai essayé, j'ai tenté de créer ce dialogue avec la Russie. Désormais, il faut que l'Europe et les États-Unis répondent de manière unie à ce nouveau test posé par le Kremlin. » C'est un petit peu, ce qui est un petit peu amusant, c'était aussi la position française lorsque le président Macron avait lancé cette idée de rapprochement, c'est-à-dire de dire « essayons, et puis si jamais ça ne mène à rien, au moins nous aurons fait cet effort, on ne pourra pas nous le reprocher, et la responsabilité de la dégradation de la relation sera à mettre sur la Russie.
En tout cas, donc Moscou, cette semaine, en l'occurrence jeudi, s'est félicité de l'engagement des présidents russes et américains à un dialogue sur la sécurité stratégique et le désarmement nucléaire, voyant les États-Unis revenir au bon sens, quote-unquote, entre guillemets, au lendemain du premier sommet, donc, entre les deux dirigeants. Alors, précisément, la France, dans cette étude Transatlantic Trends, plusieurs éléments que je relève et sur lesquels je souhaiterais qu'on développe un tout petit peu. Les fissures dans la confiance entre partenaires qui ébranlent la cohésion politique de l'Alliance Atlantique. Est-ce que on peut dire que cette visite de Biden aura permis de relancer la confiance entre les deux rives de l'Atlantique? Et puis finalement, les interlocuteurs privilégiés des États-Unis en Europe, de qui est-il question? Alors, le Royaume-Uni, mais il ne fait plus partie de l'Union européenne. Alors, la France, l'Allemagne, vous soulignez, en tout cas l'étude souligne les résultats des questions posées. La question franco-allemande, vous notez une influence française assez dramatique. Et vous allez plus loin en soulignant que finalement, toutes les propositions qui qui viennent de la France aujourd'hui sont vues comme négatives. La France ne consulte pas suffisamment et donc nécessité que la présidence française de l'Union européenne à compter du 1er janvier prochain soit l'occasion de plus de coopération. Alexandra Dobscheffer, la place de la France en Europe, c'est là le résultat, il est particulièrement sévère.
Oui, pour donner le chiffre, donc on a posé la question aux 11 pays. Quel est le pays le plus influent aujourd'hui en Europe? Alors on retrouve, y compris par rapport à l'année dernière, une Allemagne très dominante. À travers les 11 pays, 60% des opinions perçoivent l'Allemagne comme la puissance la plus influente, suivie par le Royaume-Uni, à peu près 19%, et la France, bien derrière, 7%. Donc parmi les 11 pays qu'on a interrogés, seulement 7% pensent que la France est le pays le plus influent. Alors on a eu énormément de discussions depuis les résultats de cette étude, aussi bien ici à Paris qu'avec nos partenaires européens pour essayer de comprendre ce chiffre français. Et effectivement, je pense que la France est à l'initiative de beaucoup d'idées, beaucoup d'initiatives qui sont souvent très bonnes d'ailleurs en matière de défense et de sécurité, sur le sujet numérique. Effectivement, Martin Cancel a rappelé sur la Russie ce que propose aujourd'hui Biden. On peut dire que ça réplique beaucoup ce que Macron avait proposé il y a maintenant 2 ans. Donc il y a beaucoup d'idées qui sont bonnes, mais je pense qu'on souffre encore d'un problème de communication et surtout de prendre le temps de construire des coalitions à l'intérieur de l'Union européenne pour essayer d'abord de mieux faire comprendre notre position. Qu'est-ce qu'on veut dire par autonomie stratégique? On voit que maintenant on a glissé sur le concept plus allemand de souveraineté. Pourquoi? Pour quelles raisons? Qu'est-ce que l'on veut dire et comment finalement rallier plus de soutien européen en faisant ce travail-là? Et c'est ce qui nous distingue de l'Allemagne, qui, elle, prend beaucoup plus de temps à construire ses coalitions au sein de l'Europe et qui a donc une approche plus inclusive, si je puis dire, par rapport aux initiatives qu'elle peut avancer. Et typiquement, sur l'accord UE-Chine qui, pour le moment, est mis en suspens, c'est l'Allemagne qui a poussé cette initiative et qui a réussi à rallier les pays européens autour de cet accord-là. Donc je pense qu'il manque vraiment ce morceau aujourd'hui dans la politique française et qui sans doute se traduit par une perception de l'influence française qui est vraiment particulièrement, particulièrement basse et qui n'a cessé en fait de décliner dans le contexte aussi de la crise du Covid-19. Martin, je ne sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose par rapport à ça.
Martin Cancel.
Oui, sur cette perception française, ce qui est intéressant, c'est que les résultats sont finalement assez similaires lorsqu'on pose la question aux Français eux-mêmes. Évidemment, il y a ce problème, disons, de la coordination avec nos partenaires, la manière dont nos voisins nous voient. Mais seulement 17% des Français pensent que la France est le pays le plus influent en Europe. À l'inverse, plus de 75% des Français pensent que c'est l'Allemagne. Donc il y a aussi ce problème de communication au sein de la France, auprès de nos compatriotes, pour comprendre la manière dont la France agit au niveau européen, fait passer ses idées et finalement expliquer qu'un certain nombre de décisions, on pense par exemple au plan de relance voté l'année dernière, étaient des propositions françaises qui ont été poussées par le gouvernement français. Malgré cela, ça ne se répercute pas dans la perception qu'ont les Français de l'influence de la France. La deuxième chose, et vous mentionniez la question de la fiabilité, la perception que l'on peut avoir de nos partenaires, en posant cette question, pensez-vous que tel pays est fiable ou non ? Ce que je trouve très intéressant, c'est que parmi tous les pays européens, le pays qui a le plus de doutes quant à la fiabilité des États-Unis, c'est l'Allemagne, avec seulement 51% des Allemands qui considèrent les États-Unis comme un partenaire fiable.
Alors, il faut dire, pardonnez-moi, je vous interromps, que la question des écoutes, etc., ont beaucoup échaudé les Allemands par rapport à la politique de Washington.
C'est vrai. Je pense qu'il y a également une certaine latence de l'effet Trump qui reste, une prudence vis-à-vis des États-Unis, après 4 années qui ont véritablement choqué la population allemande et la relation américano-allemande. Mais je pense que c'est un résultat très intéressant puisque, comme on le disait durant la première partie de l'émission, l'administration Biden souhaite faire de cette relation avec Berlin le cœur de sa relation avec l'Europe. Et quand on met cette idée-là en parallèle avec les doutes que peuvent avoir la population allemande, on voit qu'il y a véritablement un défi pour les États-Unis. On a encore en Allemagne la perception que les États-Unis sont un partenaire, disons, qui peut vite changer d'avis, qu'une fois la présidence de Biden terminée, qui sait si à partir de 2024, on ne retrouvera pas une relation très difficile avec à nouveau un président américain très hostile au projet européen. Et je pense que c'est un vrai défi pour eux. On va le voir avec la visite d'Angela Merkel en juillet à la Maison Blanche, comment l'administration Biden va continuer à finalement séduire l'Allemagne, leur faire comprendre qu'on mise énormément sur cette relation pour construire l'agenda transatlantique des années à venir.
Vous écoutez RFI. Géopolitique.
Alors, faire de Berlin le pilier de la relation entre les États-Unis et l'Union européenne, Martin, quand s'est parlé à l'instant du défi américain, il est grand ce défi américain, Alexandra de Hubschefer, parce que d'une part, donc le Brexit, le Royaume-Uni qui a quitté l'Union européenne, qui était le Royaume-Uni le partenaire, je veux dire, avec la langue, enfin, voilà, il s'agissait de pays anglo-saxons, donc il y avait tout l'historique entre le Royaume-Uni et les États-Unis qui faisait que cette relation coulait presque de source. Donc double défi, enfin double défi, voire davantage, peut-être triple aussi, parce que on parle de Berlin, mais Madame Merkel, qui se rend donc à la Maison Blanche en juillet prochain, elle est en fin de mandat, donc grosse incertitude sur sa succession. Et idem pour la France, avec le mandat de Monsieur Macron qui arrive à échéance en mai 2022. Donc ça fait beaucoup d'éléments instables aussi du côté européen, Alexandra.
Absolument. Et c'est pour cette raison-là aussi qu'on voit une administration Biden en fait qui joue sur tous les tableaux. Donc c'est à la fois les relations bilatérales. J'ai toujours dit que le Brexit n'allait pas du tout impacter la relation spéciale entre les États-Unis et le Royaume-Uni. Et ça se vérifie sur tous les sujets, les sujets de la Chine. On voit qu'il y a vraiment un alignement britannique sur la position américaine. Donc ça, c'est vraiment très fort. Et puis une volonté, on le voit aussi de Biden, de vraiment renouer avec son partenaire britannique. Il joue aussi sur le tableau allemand, on vient de le dire, mais il y a aussi la France qui compte terriblement, notamment sur les questions militaires. Parce qu'aujourd'hui, au sein de l'Union européenne, la France est le seul pays aujourd'hui qui peut se prévaloir comme une puissance militaire avec une capacité de projection de ses forces armées, y compris dans des conflits à haute intensité. Et c'est vrai que ce que fait la France dans le Sahel, même si c'est en train d'être configuré, est vu de la part de Washington comme justement la concrétisation du burden sharing, de ce partage du fardeau. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis la France est de plus en plus présente, y compris militairement, dans l'Indo-Pacifique. Donc d'un point de vue coopération militaire, la France est vue comme un partenaire de premier plan en Europe, ce que l'Allemagne ne peut pas du tout se faire prévaloir. Et il y a d'autres formats de coopération. On a vu Biden s'entretenir avec les États baltes avant le sommet US-UE, s'entretenir avec les pays d'Europe centrale et de l'Est dans le format E3, France, Allemagne, Britannique. Donc il exploite tous ces formats ad hoc, les institutions plus formelles, UE autant, et pour essayer justement d'enraciner un peu plus ce partenariat transatlantique à travers tous ces modèles, ces formats de dialogue et de coopération.
Et dans le cadre de l'OTAN également, cette rencontre qu'on n'a pas évoquée, et on n'a pas le temps de le faire, mais je la mentionne simplement, entre le président américain et M. Erdogan pour la Turquie. En guise de conclusion, Martin Cancé et Alexandra de Hubschefer, est-ce que les Européens ont aujourd'hui les moyens de rétablir des relations équilibrées avec les États-Unis, Martin Cancé?
Oui, on a de quoi être optimiste à la suite de cette semaine, de cette séquence diplomatique, que la coopération est relancée, qu'on a une administration Biden qui est très optimiste sur la manière de travailler avec les Européens et qu'il s'agit maintenant pour nous, Européens, de saisir cette opportunité.
Alexandra de Hubschefer.
Absolument. Je pense que ce qui nous soude aujourd'hui, Américains, Européens, c'est qu'on a tous les deux la même vision de ce que doit être la coopération, le multilatéralisme. C'est-à-dire qu'on veut un multilatéralisme qui délivre des résultats, des choses concrètes. Et c'est vrai que ces sommets ont délivré plusieurs idées, plusieurs formats de coopération, de dialogue concret qu'il va falloir effectivement maintenant remplir avec de la substance. Mais des deux côtés de l'Atlantique, il y a vraiment cette même volonté de rendre ce partenariat beaucoup plus stratégique et de parler de tous les sujets, y compris ceux qui continuent à poser un certain nombre de tensions entre les partenaires européens et américains.
Et on l'a beaucoup évoqué en amont de la visite de Joe Biden, on le fait maintenant en aval, mais c'est bien en Europe que Joe Biden a choisi de faire sa première visite à l'étranger. Merci Alexandra de Hubschefer. Je rappelle que vous êtes politologue, spécialiste des États-Unis et des relations transatlantiques, directrice à Paris du think tank Germany German Marshall Fund of the United States, et Martin Cancé, chercheur et directeur adjoint du German Marshall Fund à Paris. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Nathalie Laporte. À demain.